Chapitre suivant. Divine rencontre, l'étape décisive, le pénitent héroïque et en pèlerinage à travers la montagne. Notre libraire si serviable offre ses sandales aux gentils voyageurs qui les essaient en souriant. Elles sont trop grandes pour lui. Il les rend à Jean qui s'écrie « Enfant béni !» Si mes sandales ne peuvent vous convenir, disposez de mes épaules, il est bon que je les emploie à vous porter, vous qui avez tant coûté à Dieu. En même temps, il se penche afin que le jeune garçon puisse se hisser sur son ballot. Il reprend sa marche avec son double fardeau. Chose curieuse, l'enfant pèse très lourd. Car sans le savoir, Jean porte sur ses épaules celui qui porte le monde. Malgré sa vigueur et son courage, il est épuisé et la chaleur du soleil est devenue accablante. En passant près d'une fraîche fontaine, Jean dépose l'enfant à terre et il s'arrête un instant pour se désaltérer. Quand il rejoint son petit compagnon, il le trouve environné d'une lumière céleste. Saisi d'étonnement, il le contemple. Alors, sous les traits du jeune garçon, Jean reconnaît Jésus enfant. L'enfant divin présente à Jean un fruit. C'est une grenade entrouverte par le milieu et surmontée d'une croix. Jésus dit à Jean, « Jean de Dieu, grenade sera ta croix. » La vision disparaît, laissant Jean comblé d'admiration et de joie, transporté de reconnaissance. Il a compris maintenant. C'est à grenade qu'il doit servir et se donner totalement à Dieu et aux autres. C'est là qu'il va franchir l'étape décisive où le Seigneur l'attend pour l'entraîner à sa suite. Et il répond, « Seigneur, me voici. » Le nom qu'il vient de recevoir de Jésus lui-même exprime la vocation sublime qui est la sienne. « Dieu est charité », a dit l'apôtre et évangéliste. Saint Jean, désormais Jean de Dieu, par toute sa vie, traduira aux hommes et surtout aux plus malheureux, aux plus délaissés, cet amour sans limite dont Dieu les aime, cette miséricorde qui ne se refuse pas, mais qui se prodigue aux plus indignes. La charité dont le Christ est venu embraser le monde passera par le cœur de Jean de Dieu pour répondre à toutes les misères. Jean vient ouvrir à Grenade une petite librairie près de la porte d'Elvire. Grenade a appartenu pendant 2,5 siècles aux Maures. Ils en ont fait une de leurs plus belles villes. Elle a gardé de riches palais, des jardins merveilleux, des œuvres d'art. Puis Ferdinand d'Aragon l'a reconquise en 1492. Il y a fait construire de superbes monuments, des églises, des couvents. Mais on y trouve beaucoup de pauvres, de malades, de proscrits, d'effroyables misères non secourues, malgré les efforts d'un clergé actif et zélé des religieux. Souvent, l'archevêque de Grenade invite des prédicateurs à venir évangéliser le peuple. Le 20 janvier 1537, une multitude se presse au sanctuaire de Saint-Sébastien pour y célébrer la fête du glorieux martyr. L'apôtre de l'Andalousie, Jean d'Avila, prononce sans doute le sermon en plein air. Après les acclamations qui ont salué son arrivée, le silence s'est établi. À présent, sa voix résonne au plus intime des consciences. Il a des accents déchirants et terribles pour appeler à la foi, à la pénitence, à la ferveur, ses auditeurs très nombreux. Avec une vigueur tout apostolique, il affirme l'amour infini de Dieu méconnu par les hommes. Il évoque les cruelles souffrances du Christ qui s'est sacrifié pour nous sauver. Il dénonce la gravité du péché, les ravages de la médiocrité, et conjure les chrétiens de les rejeter avec horreur. Jean s'est mêlé à la foule et a tout entendu. Nul ne pouvait être plus frappé que lui par ses paroles, car son âme est impétueuse, son cœur est généreux à l'excès et il a le sentiment très vif de ses infidélités passées. L'amour dont Dieu l'aime et aime tous les hommes lui apparaît dans une lumière éblouissante, fulgurante. Jamais encore Jean ne l'avait si bien entrevu et cette lumière mystérieuse, cette grâce, le bouleverse. En même temps, il éprouve le regret poignant de ses fautes et il lui semble que rien ne lui coûterait trop pour les réparer. Jean, ne pouvant contenir son repentir, le crie à haute voix, sans s'inquiéter de ceux qui l'entourent. Ils partent à travers les rues en répétant le mot qui a conclu le sermon et qui lui reste comme un espoir, miséricorde. Il va, insoucieux, des regards étonnés. Bientôt des curieux s'attroupent autour de lui, puis on le tourne en dérision. Des enfants le traitent de fou et lui jettent des pierres. Aux outrages succèdent les coups. Jean, loin de protester et de se défendre, accepte et même recherche ces mauvais traitements qu'il estime avoir mérités. Quelques personnes qui le connaissent et le conduisent à Jean d'Avila. Jean lui confesse ses fautes, lui expose sa vie antérieure, son ardent désir de se convertir et de se consacrer à Dieu sans réserve. Les saints ont souvent déconcerté leurs contemporains et leurs audaces continuent à interloquer les chrétiens de pacotille de tous les temps. Mais Jean d'Avila, qui est lui-même un saint, comprend et approuve les désirs et les résolutions de Jean et il pressent que sa vocation le mènera hors des chemins battus. Puisque c'est un homme sur qui Dieu a fondé de grands desseins, Jean d'Avila ne s'oppose pas à sa soif brûlante de réparation. Plus tard, au moment voulu, il interviendra. Jean persévère, donc, dans la manifestation publique de son repentir. Aussi, on recommence à le traiter d'insensé, à l'accabler d'injures et de coups. La foule se plaît à ces jeux cruels. Jean s'y soumet volontairement. Il supporte ces outrages avec une parfaite douceur, sans proférer la moindre plainte. Des passants charitables finissent par s'indigner des excès de la populace. Pour y mettre fin, ils emmènent Jean à l'hôpital royal de Grenade. Là, on l'envoie dans le quartier des malades mentaux, pour lesquels il n'existe aucun traitement médical. On se borne à les réduire à l'impuissance par une méthode barbare. Les malheureux sont étendus à terre, pieds et poings liés, et frappés à coups redoublés sur la peau nue avec des cordes à nœuds. À maintes reprises, le traitement est appliqué avec une grande rigueur à Jean. Il endure ce supplice courageusement, unissant ses souffrances à celles du Christ en sa passion pour expier ses péchés. Au lieu de se réclamer un adoucissement à son sort, il reproche à ses infirmiers bourreaux leur conduite inhumaine envers les autres malades. Il leur dit « Pourquoi traitez-vous si cruellement ces infortunés ? Vous feriez mieux d'avoir pitié d'eux, de bien les nourrir, de les tenir en état de parfaite propreté. » Son intervention, pourtant justifiée, lui vaut un large supplément de coups. Mais j'en pense, plaise à Dieu qu'il vienne un temps où j'aurai un hôpital à ma disposition. Ainsi, je pourrai y recevoir ces pauvres gens et les soigner convenablement. L'avenir montrera combien ce vœu était fondé et l'on en constatera les heureux effets sur l'état des malades mentaux. Cependant, Jean d'Avila a connu l'épreuve de Jean et lui rend visite. Voyant qu'il a souffert avec une héroïque patience, il l'engage à reprendre sa liberté. Jean, qui a retrouvé la paix du cœur, suit ce conseil et il est reconnu guéri par ses gardiens. Disons en passant que le genre de pénitence choisi par Jean peut nous surprendre. Mais il vivait en Espagne, dans un pays où la foi chrétienne avait dû résister pendant 8 siècles aux joug musulmans. Les Espagnols, enfin délivrés de l'islam, avaient besoin de manifester impétueusement les élans de leur foi. Dans la conduite peu ordinaire de Jean, on pourrait aussi discerner un lointain rappel des pénitences publiques en usage au 1er siècle de l'Église, et même encore sous une autre forme au Moyen Âge. Ainsi, l'histoire nous apprend que l'archevêque de Milan, saint Ambroise, en a infligé une à l'empereur Théodose, qui s'y est soumis humblement et en présence de son peuple. Avec le temps, certaines coutumes chrétiennes évoluent ou disparaissent. Ne jugeons pas les faits qui appartiennent au passé avec nos petites opinions, notre mentalité actuelle. Jean demeure quelque temps à l'hôpital royal et s'y dévoue auprès des malades. Il apprend à panser les plaies, à entretenir les locaux. Il a de touchants égards pour ceux qui souffrent et il est très apprécié du personnel qui, au début, a été si dur pour lui. La direction lui propose de le garder. Il refuse. La nouvelle expérience qu'il vient de faire lui a révélé la pire épreuve qui puisse atteindre l'homme, hormis le péché, la perte de la raison. Il entend réaliser son projet maintenant arrêté, fonder une maison ouverte aux malades et aux infirmes indigents. Auparavant, Jean se rend en pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, où l'on vénère une statue miraculeuse de la Vierge. Il veut confier son grand projet à celle qu'il a toujours exaucée et protégée. L'hiver est froid. Et la montagne est rude. Qu'importe. Familier de l'aventure, Jean part sans argent, nu-pieds et pauvrement vêtu. En route, il ramasse du bois mort et le cède en échange du pain et du logement qui lui sont accordés. Il réussit à partager le peu qu'il possède avec des indigents. Au terme du voyage, Jean est favorisé d'une vision. Pendant qu'il prie à la chapelle, la statue semble s'animer. La Vierge s'incline et dépose entre ses mains l'enfant Jésus et les langes dont il faut le couvrir. Par ce geste, elle invite Jean à reconnaître le Christ dans les pauvres qu'il doit aimer, servir, nourrir. Il est heureux de voir sa mission confirmée et encouragée. Les moines qui desservent le sanctuaire laissent partir Jean à regret et lui offrent un vêtement de pèlerin qu'il donnera.